Les rendez-vous de l'information.
Jean-Joseph Perron.
Bonjour, je suis Jean-Joseph Perron et j'ai la joie de rencontrer aujourd'hui Guy Pujol, qui est plus connu sous le surnom littéraire de l'Ariégeois. Alors, il s'agit d'un auteur globe-trotteur originaire de Bordes-sur-Arize, des Bordes-sur-Arize en Ariège, et aujourd'hui installé dans le Bordelais. Alors, Guy Pujol, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Bon, d'abord, Jean-Jo, très heureux de te retrouver. Ça fait 4 ans que j'étais déjà venu dans ce lieu de Radio Couserans pour parler d'un de mes livres, la trilogie sur Au fil de la Rize.
Mais depuis, il y en a eu quelques autres.
Voilà. Et depuis, j'annonce le chiffre de 14. Donc, tu vois.
14 livres, d'accord. Oui, entier. Oui,
ma plume a couru. Et j'en suis fier, d'une part, hein, puisque ça permet quand même de faire passer pas mal de messages et de beaucoup partager ce qui m'est cher, c'est-à-dire la vie que j'ai pu passer dans mes premiers 25 ans de vie au fil de la Rize, dans l'Ariège, pas très très loin de la grotte magdalénienne du Mastasi.
D'accord, bon alors, puisque tu souhaites qu'on se tutoie ce que l'on fait dans la vie, avant de faire se tutoyer, alors tu incarnes en fait une figure marquante du patrimoine littéraire régional, et en fait, parce que est une véritable mémoire vivante de l'Ariège, du fait de tous tes voyages, de tous les poèmes que tu as écrits. Alors, pourquoi t'être engagé dans ce genre de littérature qui est assez, pas singulier, mais qui n'est pas ordinaire, c'est-à-dire à la fois la poésie, à la fois de nombreux voyages et ensuite des reportages. Je pense à ton livre « Mémoire d'estive » coécrit avec le berger Philippe Schex. Donc, il y a un grand panel d'expressions littéraires. Alors, pourquoi avoir choisi ça ?
Si tu veux... J'ai toujours eu une passion pour l'écriture, dans ma vie professionnelle en particulier, où je dis à tous ceux qui m'interviewent que j'ai été souvent le nègre, expression qui est aujourd'hui de plus en plus bannie, parce que...
Mais il y a de plus en plus de nègres aussi, voilà. Ce qui compense.
Elle aurait un historique négatif. J'en suis fier. Dans toute ma profession, j'ai été nègre, soit de mes patrons, soit de mes amis politiques à l'Assemblée nationale, voire un qui est arrivé ministre, qui me confiait de temps en temps des réflexions à lui mettre en forme pour plaider telle ou telle cause. Et j'ai toujours eu cette passion de la poésie axé sur la nature.
Et le partage, en quelque sorte. Un passionné du partage.
Et le partage, parce que tu as raison de le dire, c'est pas commun. Hein, on lit beaucoup plus de romans que de recueils de poésie. Mais je trouve que cette inspiration, qu'on va dire, un de mes maîtres depuis le jeune âge, depuis l'école, était Victor Hugo. Je pense qu'il a dû...
Littérature beaucoup, classique, en quelque
voilà,
sorte.
Il a dû m'impacter, Lamartine, et après, j'adore les fables, donc tu te doutes bien que La Fontaine est aussi un de mes maîtres, et de plus en plus, je trouve des histoires... de chez nous, de la vie actuelle, qui peuvent mériter une fable que je mets à ma sauce.
Alors, tu étais venu il y a quelques années, 3 ou 4 ans, ou peut-être 5, le temps passe tellement vite, que je t'avais reçu pour parler des ouvrages qui s'appelaient « Au fil de la Rize » et « Mon Ariège à cœur ouvert ». Donc déjà, tu avais entamé cet itinéraire qui mêle poétique et littérature. Alors, pourquoi avoir écrit « Au fil de l'Ariège » et « Mon Ariège à cœur » ou « à vert » voilà. Ah,
donc c'était « Au fil de la Rize ». Pourquoi ? Parce que les bordes, c'est sur la Rize, que la Rize coule sous la grotte du Mas d'Asile, et que mes premiers 25 ans de vie se sont passés au fil de la Rize, dont, tu le répètes, j'ai démarré avec un concept d'écriture en disant, voilà, t'as fait beaucoup de poèmes naturalistes en parlant des saisons, des mois, des fleurs, des champignons et de tout. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas y greffer des histoires de vie au fil de la Rize, ce qui a été le thème de ces 5 livres. Les 3 premiers les trois premiers tomes au fil de la Rize.
Tu as raconté ton enfance au départ.
Voilà, oui. Voilà, ayant été transformé après par mon Ariège à cœur.
D'enfant polisson.
Ouvert, hein, alors, sous les deux angles, ouvert parce que c'est vrai que j'ai rien à cacher. Et donc, je parlais de beaucoup d'aventures. Et ouvert aussi, écrit avec V-E-R-S, parce que j'ai une passion pour l'écriture en quatrain rimé.
Quatrain rimé. C'est ce que tu excelles dans ce domaine, en particulier dans Le Tour du Monde en 80 poèmes, ce qui est ton dernier ouvrage, mais nous en reparlerons plus tard. Alors, tu as choisi ton surnom de l'Ariégeois. Arié. Puis plus loin, joie. Alors pourquoi avoir choisi, mon Dieu ? Alors, il faut quand même que je te décrive pour les auditeurs. Ton visage souriant, avec une grande moustache à la Brassens, dont tu étais fier la dernière fois, je me souviens, tu étais fier de cette moustache à la Brassens. Je vois qu'elle a fructifié.
Voilà. Alors bon.
Oui, alors revenons, soyons plus sérieux, et revenons pourquoi le surnom de l'Ariégeois.
L'Ariégeois, d'abord. Puisque nous sommes Ariégeois, hein, qui s'écrit avec G-E-O-I-S, et comme tu le dis, bon, j'ai sans doute un regard jovial, donc je me suis dit, ma vie, malgré toutes les vicissitudes que l'on peut connaître les uns et les autres, j'essaie de positiver plutôt que de négativer, et donc je me suis dit que ce terme de joie pouvait venir s'assembler avec Arié, ce qui a fait mon pseudo, aussi bien pour mes livres que pour tout ce que je publie sur les réseaux sociaux. Je signe Ariégeois, je mets 2-3 points entre Arié et je finis avec joie, comme joie.
Donc tu restes fidèle à cette appellation jusqu'où. Alors j'ai parcouru tes écrits en particulier, et je suis tombé sur cette définition que tu donnes de toi-même. Tu te définis comme un impressionniste des mots. Alors pourquoi impressionniste des mots ? C'est curieux, ça.
Eh oui, parce que, bon, pour mémoire, l'impressionniste, il fait quoi ? Hein ? Un des maîtres était Monet. Il prenait son chevalet, il prenait ses pinceaux, il prenait ses peintures, il se mettait dans un champ, dans un pré, devant quelque chose, et il transformait son impression de façon artistique en peinture. Et donc moi, je ne suis pas un inventeur, hein, je suis plutôt japonais-chinois à copier que inventeur de quoi que ce soit. Il me faut toujours quelque chose devant les yeux pour pouvoir le traduire, ce qui fait que j'ai démarré comme ça à faire une cinquantaine de poèmes sur la nature. La nature, elle est simple. Il suffit de la regarder, de la respecter et de la restituer.
Et de la chanter.
Et effectivement,
ça pourrait très bien se mettre en musique.
Tout à fait. En quatrain rimé, ça permet effectivement de faire chanter les mots. Et je ferai une petite parenthèse là-dessus, puisque tu l'ouvres.
Vas-y, je t'en prie.
Pendant longtemps, j'ai fait chanter les chiffres, puisque j'étais banquier.
Et donc, c'est moins poétique.
Voilà. Bon. Et une fois que j'ai pris ma retraite, je me suis dit, tu ne vas plus parler de chiffres. Et là, je me suis mis à faire valser les lettres.
Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, tu as commencé à écrire, à parler de ton enfance. Bon, il y avait tout un tas d'anecdotes un petit peu savoureuse, d'une enfance polissonne, un petit peu espiègle. Et là, donc, as-tu évolué au fil de tes parutions ?
J'ai évolué. Alors, on parle plus d'espiègle ni de polissonnerie, mais j'ai passé aujourd'hui le cap de mes 3/4 de siècle, donc tu te doutes bien que à la fin de mon Ariège à cœur ouvert, j'étais resté sur l'âge de mes 20 ans, allez, on va dire, où déjà j'avais raconté pas mal d'aventures qui m'étaient arrivées. Et donc, en reprenant le fil au travers du tour du monde, puisque avec mon épouse, nous sommes à plus de 60 pays visités et quasiment toutes les régions de France, j'ai repris comme fil rouge ce qu'était l'après de mes 20 ans.
D'accord. Et alors, dans un écrit, je te cite, tu mêles l'humour, la tendresse et le goût du détail vécu. Alors, tout au long de tes voyages, tu as eu l'occasion de décrire tout ça. Hein. Je répète, humour, tendresse et le goût du détail vécu. Alors, pourquoi le goût du détail vécu ? Pourquoi cette recherche de précision tout en restant littéraire et philosophe avec un style élégant et fluide ?
Tout à fait, tout à fait. Le goût du détail vécu, c'est que aussi bien dans toutes les polissonneries que j'avais pu décrire dans mes livres précédents, toutes vécues, sans invention, sans travesti, sans quoi que ce soit, dans tous les voyages que j'ai faits, dont une grosse partie que j'ai organisée, puisque je pilotais une grosse association culture-loisirs en Sud-Essonne de plus de 500 adhérents qui m'ont permis pendant 10 ans de faire plusieurs fois le tour du monde. Tu te doutes bien que quand tu pilotes des groupes de 40, 60 à 80 personnes, il peut se passer pas mal de choses. Donc, au travers de tout ce que je raconte dans les pays visités, soit seul avec mon épouse, soit en groupe, je raconte pas mal de choses qui parfois auraient pu mal se finir, et en particulier...
Par exemple, est-ce que tu peux nous donner une anecdote si tu veux ?
Voilà, oui. Une des anecdotes, c'était que la veille de partir accompagner 80 personnes en Norvège, sur un long périple au mois de juin pour aller voir... le jour le plus long au Cap Nord, m'est arrivé un incident de santé, comme ça peut arriver quand on est à l'approche de 60 ans. En regardant la télévision, d'un seul coup, la télévision s'est brouillée. J'ai pensé que c'était un incident technique, et puis en fait, c'était un incident personnel où ma tension est tombée à proche de 5.
Surmenage peut-être, cher ami.
Mon pouls à 35, et nous avons hésité pendant plus de demi-heure à appeler SAMU et pompiers, avec l'information donnée à ma femme: si on les appelle, ils m'amènent, et demain les 80 personnes, ils s'en vont tout seuls ou avec toi.
Alors ça s'est terminé comment ?
Et ça s'est terminé où je n'ai plus rien senti pendant les 13 jours que j'ai passé en Norvège. Je suis rentré tout de suite, quasiment sur instruction militaire de mes enfants, pour aller passer une visite médicale. Et je n'étais pas couché sur la table du médecin, qu'elle appelait SAMU pompier. Ça s'est fini à l'hôpital, un vendredi soir de fête de la musique, avec le lendemain à 8h30, un samedi, alors que les opérations en hôpital ne se passent rarement les week-ends, avec la pose d'un stimulateur cardiaque et les félicitations du chirurgien qui m'a dit: je suis heureux de vous retrouver, parce que votre plus belle mort aurait dû, pas pu, aurait dû se passer à 10 000 mètres d'altitude dans l'avion, parce que c'est là où on s'endort et qu'on se réveille pas quand on a ce genre d'incident.
Oui, en effet, sacrée aventure quand même, qui laisse un goût de cendre.
Et je suis heureux de la raconter, parce que je suis là, et je préfère que ce soit moi qui la raconte plutôt que toi.
Oui,
ou d'autres, en disant, ça y est, il nous a quittés.
Bon, voilà, donc c'est un souvenir quand même très important.
Pour toi. Un parmi tant d'autres, mais celui-là m'a marqué, parce que j'aurais pu ne plus tenir la plume.
Et voilà, et tu n'en serais pas aperçu. Voilà. Alors, là aussi, je constate, au fil de tes ouvrages, parce que j'en ai lu quelques-uns, je ne sais pas si j'ai lu l'intégralité, mais il y a toujours, tes textes sont toujours enrichis d'illustrations originales et de témoignages. Toujours des témoignages, toujours des illustrations. Alors pourquoi, là aussi, avoir fait ce choix ? Qui n'est pas ordinaire, une fois de plus.
Tout à fait. Alors, dans les témoignages, il y a deux sortes de témoignages. Il y a ce que moi j'ai vécu et ce que l'on m'a raconté. En particulier, quand je décris dans un de mes livres la vie d'un poilu de 14 qui m'a raconté au coin du feu ce qu'il avait vécu sur le chemin des dames, d'où il avait eu la chance de revenir avec un bras en moins. Tout ça en nous faisant des pescaillous à l'époque, donc c'était super. Ça, c'était un témoignage vécu. Et puis d'autres témoignages, puisque je t'ai dit que je fus le nègre. Tu as parlé de mon ami Lou Pastou de Foix, le berger, le vrai berger qui un jour, voyant des articles dans la presse, m'a dit « Écoute, j'ai des pages et des pages de livres que j'ai remplis dans ma jeunesse sur la vie de berger, j'aimerais mettre tout ça en forme, est-ce que tu peux m'aider ?» Et donc, je l'ai aidé à mettre en forme la totalité de son vécu, « Mémoire d'Estive », ça s'appelle. Ça.
Oui, mais nous en reparlerons la semaine prochaine, puisque là, donc, je te propose, je te propose, aujourd'hui on parle des généralités sur toi, sur ton œuvre, et la semaine prochaine, si tu veux, on pourra se pencher sur tes livres, en particulier sur « Mémoire d'Estive », sur « Les cerises du Zaka » et sur ton dernier ouvrage « Tour du monde en 80 poèmes ». Donc, si tu veux, on en reparlera la semaine prochaine.
Tout à fait.
Et donc, pour le coup, tu es devenu, en quelque sorte, je l'ai dit aussi au début, cette figure marquante du patrimoine littéraire régional, puisque tout le monde en Ariège te connaît, puisque tu publies pas mal sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et donc, comment tu vis cette reconnaissance, comment tu vis la vision des lecteurs par rapport à ton œuvre?
Tu es aussi auteur, Jean-Jo, tu nous as parlé de Tessot et Gamba dans l'Ariège. Moi, je suis toujours très honoré quand, au travers de relations sur les réseaux sociaux dont tu parles, puisque on les anime toi et moi, un jour tu reçois un message en disant c'était super, j'ai vécu à tel endroit, vous décrivez ça magnifiquement bien, d'où êtes-vous, qu'avez-vous fait, et ça touche surtout quand on fait partie des expatriés.
La nostalgie du pays.
Voilà, j'ai quitté l'Ariège, j'avais 24 ans. J'y ai laissé papa et maman, ils y sont toujours, sauf qu'aujourd'hui ils sont sous terre. Maman est en partie en 2020, hein, c'est quand même assez récent. Mais dès que nos racines sont touchées par des témoignages venus d'ailleurs, soit d'Ariège, soit de gens qui, comme nous, ont quitté le pays, je trouve ça d'une grande richesse. Et pour te dire, au fin fond de La Réunion, alors que je parlais des déracinés de La Réunion, un de mes livres aussi, hein, sur ce scandale des années 60, dans l'hôtel où j'étais, un Ariégeois est venu me trouver.
Ah oui, c'est quand même vraiment touchant.
Il était à Saint-Pierre, en train de passer ses vacances, et comme le livre était en vente à l'accueil de l'hôtel, il a été fier de venir me trouver. On a passé 2 heures à beaucoup discuter et puis à arroser le tout avec quelques rhums arrangés.
Ah voilà, très bien. Alors tu animes en fait une chronique régulière sur les réseaux sociaux et il y a aussi, et tu proposes tes livres bien sûr, et des diaporamas personnels sur ce site. Alors est-ce que tu pourrais nous parler ton site?
Voilà, donc sur le site, alors on va pas vous faire https://, allez sur monsieur ou madame Google, comme vous voulez, vous tapez bienvenue chez l'Ariégeois, comme l'a dit Jean-Jo, Ariégeois avec J-O-I-E, mais je pense que si vous tapez avec G, ça passe pareil. Le moteur de recherche me trouvera. Et là, vous allez trouver en gros 250 à 300 reportages en diaporama, illustré de toutes les photos que j'ai pu faire dans mes voyages ou dans mes recherches ou au travers des poèmes naturalistes, tout ça légendé durant en gros 10 à 15 minutes de visionnage sur un fond musical sans parole. Je trouve que cette technique permet de véhiculer beaucoup, beaucoup de messages et ça a un certain succès. Hein. J'ai un site avec plus de 500 adhérents et j'ai près de 5000 followers sur les réseaux sociaux. Donc, vous doutez que de temps en temps, j'ai beaucoup de messages.
Tu as beaucoup de messages et beaucoup de temps pour répondre aussi.
Tout à fait.
Et alors, quelle est en fait ta philosophie de la vie en général?
Alors, ma philosophie de la vie, vous doutez bien qu'elle a évolué, hein, puisqu'aujourd'hui, sans parler de grand âge, mais je commence à y mettre les pieds dedans. Une fois qu'on a passé les trois quarts de siècle, on commence à avoir de l'expérience. Et un jour, j'ai préparé quelque chose.
Ah, mais je t'en prie, je ne censure pas, tu dis.
Voilà, qui n'a pas été dévoilé encore, qui le sera dans un de mes prochains volumes sur le tour du monde, puisqu'on parlera du premier volume. Et je vais te le lire en espérant que ça ne prenne pas plus de 5 minutes. Le temps s'envole, l'instant s'enracine. La pendule marque le temps, impassible dans sa course. Chaque seconde est un présent, chaque minute trace sa source. Les heures tissent la mémoire du jour qui naît, du jour qui meurt. Et dans ce fil mêlé d'espoir se cache un éclat de bonheur. Le seul instant qui compte sur terre, c'est celui que l'on vit ici. Car l'impatience gronde et fait mourir l'âme aussi. Les mois changent, l'hiver s'efface, le printemps vient, l'été s'invite, et l'automne, en dorure, s'enlace au jour que la vie nous confie vite. Savoure l'instant présent, il est la graine de demain. Chaque heure qui s'enfuit est un présent à cueillir. Voilà ma philosophie.
Voilà, très belle philosophie. Donc c'est sur ces notes philosophiques, poétiques, puisqu'il y a de très très belles images, que l'on va se quitter. Je rappelle que tu es venu de Bordeaux, donc je te remercie. C'est très sympathique à toi. Et je pense qu'on se rencontrera la semaine prochaine. On se retrouvera la semaine prochaine, si tu es d'accord, bien sûr.
Mais oui, je suis d'accord.
À la semaine prochaine.
Merci beaucoup et à bientôt. Adichat à toutis.